L'envers de l'histoire contemporaine, deuxième épisode, troisième chapitre. Huit heures sonnaient au couvent de la Visitation, l'horloge du quartier, lorsque le curieux Godefroy frappa doucement à la porte de son voisin. Auguste vint ouvrir, et comme ce jour était un samedi, le jeune homme avait sa soirée à lui. Godefroy le vit habillé d'une petite redingote en velours noir, d'une cravate en soie bleue, d'un pantalon noir assez propre. Mais son étonnement de trouver le jeune homme si différent de lui-même cessa tout à coup lorsqu'il fut dans la chambre de la malade. Il comprit la nécessité pour le père et pour le fils d'être bien vêtus. En effet, l'opposition entre la misère du logement qu'il avait vu le matin et le luxe de cette pièce était trop forte pour que Godefroy n'en fût pas comme ébloui, quoiqu'il fût habitué à ce qui sert aux recherches et aux élégances de la richesse. Les murs, tendus de soie jaune, relevés par des torsades en soie verte d'un ton vif, donnaient une grande gaieté, pour ainsi dire, à la chambre, dont le carreau froid était caché par un tapis de moquette à fond blanc semé de fleurs. Les deux croisées, drapées de beaux rideaux doublés en soie blanche, formaient comme deux jolis bosquets, tant les jardinières étaient abondamment garnies. Des stores empêchaient de voir du dehors cette richesse, si rare dans ce quartier. La boiserie, peinte à la colle en blanc pur, était rehaussée par quelques filets d'or. À la porte, une lourde portière en tapisserie aux petits points à fond jaune et à feuillage extravagant étouffait tout bruit du dehors. Cette portière magnifique était l'ouvrage de la malade, qui travaillait comme une fée lorsqu'elle avait l'usage de ses mains. Au fond de la pièce et en face de la porte, la cheminée, à manteau de velours vert, offrait au regard une garniture d'une excessive recherche, les seules reliques de l'opulence de ces deux familles, et composée d'une pendule curieuse, un éléphant soutenant une tour en porcelaine d'où sortaient des fleurs à profusion, de deux candélabres dans le même style et des chinoiseries précieuses. Le garde-cendre, les chenets, les pelles, les pincettes, tout était du plus grand prix. La plus grande des jardinières occupait le milieu de cette chambre, d'où tombait d'une rosace un lustre en porcelaine à fleurs. Le lit où gisait la fille du magistrat était un de ces beaux lits blancs et or en bois sculpté comme on les faisait sous Louis XV. Il y avait au chevet de la malade une jolie table en marqueterie où se trouvaient toutes les choses nécessaires à cette vie qui se passait au lit. À la muraille tenait un flambeau à deux branches qui se repliait ou s'avançait au moindre mouvement de main. Une petite table, excessivement commode et appropriée aux besoins de la malade, était devant elle. Le lit, couvert d'une superbe courte pointe et drapé de rideaux retroussés par des embrasses, était embarrassé de livres, d'une corbeille à ouvrage. Et sous toutes ces choses, Godefroy aurait difficilement vu la malade sans les deux bougies du flambeau mobile. Ce n'était plus qu'un visage d'un teint très blanc, bruni par la souffrance autour des yeux, où brillaient des yeux de feu, et qui, pour principal ornement, offrait une magnifique chevelure noire, dont les boucles nombreuses, énormes, disposées par mèches, annonçaient que l'arrangement et le soin de ses cheveux occupaient la malade une partie de la matinée, ainsi qu'on pouvait le supposer en voyant un miroir portatif au pied du lit. Aucune des recherches modernes ne manquait là. Quelques colifichets, amusements de la pauvre Vanda, prouvait que cet amour paternel allait jusqu'au délire. Le vieillard se leva de dessus une magnifique bergère Louis XV, blanc et or, garnie en tapisserie, et fit quelques pas au-devant de Godefroy, qui ne l'eût certes pas reconnu, car cette froide et sévère figure avait cette expression de gaieté particulière aux vieillards qui ont conservé la noblesse de manière et l'apparente légèreté des gens de cour. Sa douillette puce était en harmonie avec ce luxe, et il prisait dans une tabatière d'or enrichie de diamants. « Voici, ma chère enfant, » dit M. Bernard à sa fille en prenant Godefroy par la main. Voici le voisin de qui je t'ai parlé. » Et il fit signe à son petit-fils d'avancer un des deux fauteuils semblables à la bergère qui se trouvait de chaque côté de la cheminée. « Monsieur se nomme Monsieur Godefroy, et il est plein d'indulgence pour nous. » Vanda fit un mouvement de tête pour répondre au salut profond de Godefroy. Et, à la manière dont le cou se plia, se replia, Godefroy vit bien que toute la vie de la malade résidait dans la tête. Les bras amaigris, les mains molles, reposaient sur le drap blanc et fin, comme deux choses étrangères à ce corps, qui paraissait ne point tenir de place dans le lit. Les objets nécessaires à la malade étaient placés derrière le dossier du lit, dans une étagère fermée par un rideau de soie. « Vous êtes, monsieur, la première personne, à l'exception des médecins, qui ne sont plus des hommes pour moi, que j'aurais vu depuis 6 ans. Aussi ne vous doutez-vous pas de la passion que vous avez excitée en moi depuis le moment où mon père m'a annoncé votre visite. Non, c'était une curiosité pareille à celle de notre mère Ève. Mon père, si bon pour moi, mon fils que j'aime tant, suffisent bien certainement à remplir le désert d'une âme maintenant à peu près sans corps. Mais cette âme est restée femme, après tout, et vous ne serez pas étonné de l'intérêt que j'ai pris à votre visite. Vous me ferez le plaisir de prendre une tasse de thé avec nous. » « Monsieur m'a promis la soirée, » répondit le vieillard avec la grâce d'un millionnaire qui fait les honneurs chez lui. Auguste, assis sur une chaise en tapisserie, à une petite table en marqueterie ornée de cuivre, lisait un livre à la clarté des candélabres de la cheminée. « Auguste, mon enfant, dis à Jean de venir nous servir le thé dans 1 heure. » Elle accompagna cette phrase d'un regard expressif, auquel Auguste répondit par un signe. « Croiriez-vous, monsieur, que depuis 6 ans, je n'ai pas d'autre serviteur que mon père et mon fils, et je n'en pourrais plus supporter d'autres. S'il me manquait, je mourrais. Mon père ne veut pas que Jean, un pauvre Normand qui nous sert depuis 30 ans, vienne dans ma chambre. » « Je crois bien, dit finement le vieillard. Monsieur l'a vu, il scie le bois, il le rentre. Il fait la cuisine, il fait les commissions, il porte un tablier sale. Il aurait fricassé toute cette élégance, si nécessaire aux yeux d'une pauvre fille, pour qui cette chambre est toute la nature. Ah, madame, monsieur votre père a bien raison. Et pourquoi, dit-elle, si Jean avait gâté ma chambre, mon père l'aurait renouvelée. Oui, mon enfant, mais ce qui m'en empêche, c'est que tu ne peux pas la quitter. Et tu ne connais pas les tapissiers de Paris. Il leur faudrait plus de 3 mois pour refaire ta chambre. Songe à la poussière qui s'élèverait de ton tapis si on l'ôtait. Faire ta chambre par Jean, y penses-tu? En prenant les précautions minutieuses dont sont capables un père et un fils, nous t'avons évité le balayage, la poussière. Si seulement Jean entrait pour nous servir, ce serait fini dans 1 mois. Ce n'est pas par économie, dit Godefroy, c'est pour votre santé. Monsieur votre père a raison. Je ne me plains pas, répliqua Vanda d'une voix pleine de coquetterie. Cette voix faisait l'effet d'un concert. L'âme, le mouvement et la vie s'étaient concentrés dans le regard et dans la voix. Car Vanda, par des études auxquelles le temps n'avait certes pas manqué, était arrivée à vaincre les difficultés provenues de la perte de ses dents. « Je suis encore heureuse, monsieur, dans l'effroyable malheur qui m'assiège, car au moins la fortune est d'un grand secours pour supporter mes souffrances. Si nous avions été dans l'indigence, Il y a 18 ans que je n'existerai plus. Et je vis. J'ai des jouissances. Elles sont d'autant plus vives que c'est de perpétuelles conquêtes sur la mort. Vous allez me trouver bien bavarde, reprit-elle en souriant. Madame, répondit Godefroy, je vous prierai de parler toujours, car je n'ai jamais entendu de voix comparable à la vôtre. C'est une musique. Rubini n'est pas plus enchanteur.
Ne parlez pas de Rubini, des Italiens, dit le vieillard avec une teinte de tristesse.
Quelque riches que nous soyons, il m'est impossible de donner à ma fille, qui était une grande musicienne, ce plaisir dont elle est folle.
Pardon, fit Godefroy.
Vous vous ferez à nous, dit le vieillard. Voici le procédé, dit la malade en souriant. Quand on vous aura crié casse-cou plusieurs fois, vous serez au fait du colin-maillard de notre conversation.
Godefroy échangea rapidement un regard avec M. Bernard, qui, voyant des larmes dans les yeux de son voisin, se mit un doigt sur la bouche pour lui recommander de ne pas faillir à l'héroïsme qu'il partageait avec son fils depuis 7 ans. Cette sublime et perpétuelle imposture, accusée par la complète illusion de la malade, produisait en ce moment sur Godefroy l'effet de la contemplation d'un précipice à pic, où deux chasseurs de chamois descendraient avec facilité. La magnifique boîte d'or, enrichie de diamants, avec laquelle jouait insouciamment le vieillard sur le pied du lit de sa fille, était comme le trait de génie qui, dans l'œuvre d'un homme supérieur, enlève le cri d'admiration. Godefroy regardait cette tabatière, se demandant pourquoi elle n'était pas vendue ou au Mont-de-Piété, mais il se réserva d'en parler au vieillard.
« Ce soir, monsieur Godefroy, ma fille a reçu de l'annonce de votre visite une telle excitation que tous les phénomènes bizarres de sa maladie, qui depuis 12 jours faisaient notre désespoir, ont complètement disparu. Jugez si je vous ai de la reconnaissance. »
« Et moi donc ? » s'écria la malade d'un son de voix câlin et en penchant la tête par un mouvement plein de coquetterie.
« Monsieur est pour moi le député du monde. Depuis l'âge de 20 ans, monsieur, je n'ai plus su ce que c'était qu'un salon, une soirée, un bal. Et notez que j'aime la danse, que je raffole du spectacle et surtout de musique. Je devine tout par la pensée. Je lis beaucoup. Puis mon père me raconte les choses du monde. »
En entendant ce mot, Godefroy fit un mouvement comme pour plier un genou devant ce pauvre vieillard.
« Oui, quand il va aux Italiens, et il y va souvent, il me dépeint les toilettes, il me décrit les effets du chant. Oh, je voudrais être guérie, d'abord pour mon père, qui vit uniquement pour moi, comme je vis par lui, pour lui. » Pour mon fils, à qui je voudrais donner une autre mère. Ah, monsieur, quels êtres accomplis que mon vieux père, que mon excellent fils. Mais aussi pour entendre la Blache, Rubini, Tamburini, la Grisi et Puritani. Mais...
Allons, mon enfant, du calme. Si nous parlons musique, nous sommes perdus, dit le vieillard en souriant.
Et ce sourire, qui rajeunissait cette figure, trompait toujours évidemment la malade.
« Tiens, je serai bien sage, » dit Vanda d'un air mutin. « Mais donne-moi l'accordéon. »
On avait inventé dès ce temps cet instrument portatif qui pouvait, à la rigueur, se poser au bord du lit de la malade et qui, pour donner les sons de l'orgue, n'exigeait que la pression du pied. Cet instrument, dans son plus grand développement, équivalait à un piano, mais il coûtait alors 300 francs. La malade, qui lisait les journaux, les revues, connaissait l'existence de cet instrument et en souhaitait un depuis 2 mois.
« Oui, madame, vous en aurez un, » reprit Godefroy à un regard que lui lança le vieillard.
Un de mes amis qui part pour Alger en a un superbe que je lui emprunterai, car avant de vous en acheter un,
vous essayerez celui-là. Il est possible que les sons si vibrants, si puissants, ne vous conviennent pas. « Puis-je la voir demain ?» dit-elle avec la vivacité d'une créole. « Demain, reprit M. Bernard, c'est bientôt, et demain, c'est dimanche. »«
Ah ! » fit-elle en regardant Godefroy, qui croyait voir voltiger une âme en admirant l'ubiquité des regards de Vanda.
Jusqu'alors, Godefroy avait ignoré la puissance de la voix et des yeux, lorsqu'ils sont devenus toute la vie. Le regard n'était plus un regard, mais une flamme, ou mieux, un flamboiement divin, un rayonnement communicatif de vie et d'intelligence, la pensée visible. Cette voix, aux mille intonations, remplaçait les mouvements, les gestes et les poses de la tête. Les variations du teint, qui changeaient de couleur comme le fabuleux caméléon, rendaient l'illusion, ou, si vous voulez, ce mirage complet. Cette tête souffrante, plongée dans cet oreiller de batiste garni de dentelles, était toute une personne. Jamais dans sa vie, Godefroy n'avait contemplé de si grands spectacles. Il suffisait à peine à ses émotions. Autre sublimité, car tout était étrange dans cette situation, pleine de poésie et d'horreur. L'âme seule vivait chez les spectateurs. Cette atmosphère, uniquement remplie de sentiments, avait une influence céleste. On ne s'y sentait pas plus de corps que n'en avait la malade. On s'y trouvait tout esprit. À force de contempler ce mince débris d'une jolie femme, Godefroy oubliait les mille détails élégants de cette chambre. Il se croyait en plein ciel. Ce ne fut qu'au bout d'une demi-heure qu'il aperçut une étagère pleine de curiosités, placée sous un portrait magnifique de Madame Bernard, que la malade le pria d'aller voir, car il était de Géricault. « Géricault, dit-elle, était de Rouen, et sa famille ayant eu quelques obligations à mon père, le premier président, il nous remercia par ce chef-d'œuvre, où vous me voyez à l'âge de 16 ans. »
« Vous avez un fort beau tableau, » dit Godefroy. « Il est tout à fait inconnu de ceux qui se sont occupés des œuvres si rares de ce génie. »«
Ce n'est plus pour moi, » dit-elle, « qu'une chose d'affection, car je ne vis que par le cœur. Et j'ai la plus belle vie, » ajouta-t-elle en regardant son père et lui jetant toute son âme dans ce regard. « Ah, monsieur, si vous saviez ce qu'est mon père !» Qui jamais pourrait croire que ce grand et sévère magistrat, à qui l'empereur a eu tant d'obligations qu'il lui a donné cette tabatière, et que Charles X a cru le récompenser par ce cabaret de Sèvres, là, dit-elle en montrant la console, que ce ferme soutien du pouvoir et des lois, ce savant publiciste, a, dans un cœur de rocher, les délicatesses d'un cœur de mer. Oh, papa! « Papa, embrasse-moi. Viens, je le veux, si tu m'aimes. » Le vieillard se leva, se pencha sur le lit et prit un baiser sur le front blanc, vaste, poétique de sa fille, de qui les fureurs ne ressemblaient pas toujours à cette tempête d'affection. Le vieillard se promena par la chambre. Il avait aux pieds des pantoufles brodées par sa fille, et il ne faisait aucun bruit. « Et quelles sont vos occupations ? » demanda-t-elle à Godefroy après une pause.
« Madame, je suis, employée par des personnes pieuses, à secourir les gens très malheureux. »«
Ah, la belle mission, monsieur, » dit-elle. « Croyez-vous que l'idée de me vouer à cette occupation m'est venue ? Mais quelles sont les idées que je n'ai pas eues ? » reprit-elle en faisant un mouvement de tête.
La douleur est comme un flambeau qui nous éclaire la vie.
Si donc je recouvrais la santé.
Tu t'amuserais, mon enfant, dit le vieillard.
Certainement, répondit-elle, j'en ai le désir, mais en aurais-je la faculté? Mon fils sera, je l'espère, un magistrat digne de ses deux grands-pères, il me quittera. Que faire? Si Dieu me rend la vie, je la lui consacrerai. Oh, après vous avoir donné tout ce que vous en voudrez, s'écria-t-elle en regardant son père et son fils. Il y a des moments, mon père, où les idées de monsieur de Maistre me travaillent, et je crois que j'expie quelque chose. Voilà ce que c'est que de t'en lire, s'écria le vieillard, évidemment chagriné. Ce brave général polonais, mon grand-père, a trempé fort innocemment dans le partage de la Pologne.
Allons, voilà la Pologne, reprit Bernard.
Que veux-tu, papa? Mes souffrances sont infernales. Elles donnent horreur de la vie. Elles me dégoûtent de moi-même. Eh bien, en quoi les ai-je méritées? De telles maladies ne sont pas un simple dérangement de santé. C'est l'organisation tout entière pervertie et... Chante l'air national que chantait ta pauvre mère. Tu feras plaisir à monsieur, à qui j'ai parlé de ta voix,
dit le vieillard qui voulait évidemment distraire sa fille des idées dans lesquelles elle s'engageait.
Vanda se mit à chanter, d'un ton bas et doux, une chanson en langue polonaise qui fit rester Godefroy stupide d'admiration et saisi de tristesse. Cette mélodie, assez semblable aux airs traînants et mélancoliques de la Bretagne, est une de ces poésies qui vibrent dans le cœur longtemps après qu'on les a entendues.
En écoutant Vanda, Godefroy la regardait, mais il ne put soutenir les regards extatiques de ce reste de femme, quasi folle, et il arrêta sa vue sur des glands qui pendaient de chaque côté du ciel de lit.
Ah! Fit Vanda qui se mit à rire de l'attention de Godefroy. Vous vous demandez à quoi cela sert?
Vanda, dit le père, allons, calme-toi, ma fille. Tiens, voici le thé.
Ceci, monsieur, est une bien coûteuse machine, dit-il à Godefroy. Ma fille ne peut pas se lever, et elle ne peut pas non plus rester dans son lit, sans qu'on le fasse ou qu'on en change les draps. Ces cordons répondent à des poulies, et en passant sous elles un carré de peau maintenu aux quatre coins par des anneaux qui s'accrochent à quatre cordes, nous pouvons l'enlever sans fatigue pour elle, ni pour nous.
« On m'enlève !» répéta follement Vanda.
Heureusement, Auguste parut, apportant une théière qu'il mit sur une petite table, où il déposa le cabaret de porcelaine de Sèvres et qu'il couvrit de pâtisseries, de sandwichs. Il apporta la crème et le beurre. Cette vue changea tout à fait les dispositions de la malade, qui tournait à une crise.
« Tiens, Vanda, voilà le nouveau roman de Nathan. Si tu t'éveilles cette nuit, tu auras de quoi lire. »
« La perle de Dol ! Ah, cela doit être une histoire d'amour ! Auguste, dis donc, j'aurai un accordéon !»
Auguste leva la tête brusquement et regarda son grand-père d'un air singulier.
« Voyez comme il aime sa mère !» reprit Vanda. « Viens m'embrasser, mon petit chat. Non, ce n'est pas ton grand-père, c'est monsieur que tu dois remercier, car notre voisin doit m'en prêter un demain matin. »
« Comment est-ce fait, monsieur ?»
Godefroy, sur un signe du vieillard, expliqua longuement l'accordéon, tout en savourant le thé fait par Auguste, et qui, d'une qualité supérieure, était exquis. Vers 10h30, l'initié se retira, lassé du spectacle de cette lutte insensée du grand-père et du fils, admirant leur héroïsme et cette patience de tous les jours à jouer un double rôle, également accablant.
« Eh bien, lui dit monsieur Bernard, qui le suivit chez lui, vous comprenez, monsieur, la vie que je mène. C'est à toute heure les émotions du voleur, attentif à tout. Un mot, un geste tuerait ma fille. Une babiole de moins parmi celles qu'elle a l'habitude de voir révélerait tout à cet esprit qui voit à travers les murs.
« Monsieur, répondit Godefroy, Lundi, Alperson prononcera sur votre fille, car il est arrivé. Je doute que la science puisse rétablir ce corps.
Oh, je n'y compte pas, reprit l'ancien magistrat.
Mais qu'on lui rende la vie supportable. Je comptais, monsieur, sur votre intelligence, et je voulais vous remercier, car vous avez tout compris.
Ah, voilà l'accès,
s'écria-t-il en entendant un cri à travers les murs. Elle a excédé ses forces. Et, serrant la main de Godefroy, le vieillard courut chez lui. À 8 heures du matin, le lendemain, Godefroy frappait à la porte du célèbre médecin polonais. Il fut conduit par un valet de chambre au premier étage du petit hôtel, qu'il avait pu examiner pendant le temps que le portier mit à trouver et à prévenir le domestique. Heureusement, comme il s'en doutait, l'exactitude de Godefroy lui sauva l'ennui d'attendre. Il était sans doute le premier venu. D'une antichambre fort simple, il passa dans un grand cabinet où il aperçut un vieillard en robe de chambre qui fumait une longue pipe. La robe de chambre, en alépine noire, devenue luisante, portait la date de l'émigration polonaise.
« Qu'y a-t-il pour votre service ?» lui dit le médecin juif. « Car vous n'êtes pas malade. »
Et il arrêta sur Godefroy un regard qui avait l'expression curieuse et piquante des yeux du juif polonais, ses yeux qui semblent avoir des oreilles. Alperson était, au grand étonnement de Godefroy, un homme de 56 ans, à petites jambes turques, et dont le buste était large, puissant. Il y avait en cet homme quelque chose d'oriental, car sa figure avait dû, dans la jeunesse, être fort belle. Il en restait un nez hébraïque, long et recourbé comme un sabre de Damas. Le front, vraiment polonais, large et noble, mais ridé comme un papier froissé, rappelait celui de Saint-Joseph des vieux maîtres italiens. Les yeux, verts de mer et enchâssés, comme ceux des perroquets, par des membranes grisâtres et froncées, exprimaient la ruse et l'avarice à un degré supérieur. Enfin, la bouche, fendue comme une blessure, ajoutait à cette physionomie sinistre tout le mordant de la défiance. Cette face, pâle et maigre, car Alperson était d'une remarquable maigreur, surmontée de cheveux gris mal peignés, avait pour ornement une longue barbe très fournie, noire, mélangée de blanc, qui cachait la moitié du visage, en sorte qu'on n'en voyait que le front, les yeux, le nez, les pommettes et la bouche. Cet ami du révolutionnaire Lelewel portait une calotte en velours noir, qui, mordant par une pointe sur le front, en faisait ressortir la couleur blonde, digne des pinceaux de Rembrandt. La question que fit ce médecin devenu si célèbre, autant par ses talents que par son avarice, causa quelque surprise à Godefroy, qui se dit en lui-même « Me prendrait-il pour un voleur ?» La réponse à cette question se trouvait sur la table et sur la cheminée du docteur. Godefroy croyait arriver le premier, il arrivait le dernier. Les consultants avaient déposé sur la cheminée et sur le bord de la table d'assez grosses offrandes, car Godefroy aperçut des piles de pièces de 20 francs, de 40 francs et 2 billets de 1000 francs. Était-ce là le produit d'une matinée? Il en douta beaucoup, et il crut à quelque savante invention d'esprit. Peut-être l'avare, mais infaillible docteur, tenait-il à forcer ainsi ses recettes en laissant croire à ses clients, choisis parmi les riches, qu'on lui donnait des rouleaux au lieu de papillotes. Moïse Alperson devait d'ailleurs être payé largement, car il guérissait, et guérissait précisément les maladies désespérées auxquelles la médecine renonçait. On ignore en Europe que les peuples slaves possèdent beaucoup de secrets. Ils ont une collection de remèdes souverains, fruits de leurs relations avec les Chinois, les Persans, les Cosaques, les Turcs et les Tartares. certaines paysannes, qui passent pour sorcières, guérissent radicalement la rage en Pologne avec des sucs d'herbe. Il existe dans ce pays un corps d'observation sans code sur les effets de certaines plantes, de quelques écorces d'arbres réduites en poudre, que l'on se transmet de famille en famille, et il s'y fait des cures miraculeuses. Alperson, qui passa pendant 5 ou 6 ans pour un médicastre, à cause de ses poudres, de ses médecines, possédait la science innée des grands médecins. Non seulement il était savant et avait beaucoup observé, mais encore il avait parcouru l'Allemagne, la Russie, la Perse, la Turquie, où il avait recueilli bien des traditions. Et comme il connaissait la chimie, il devint la bibliothèque vivante de ses secrets épars chez les bonnes femmes, comme on dit en France, de tous les pays où il avait porté ses pas, à la suite de son père, marchand ambulant de son état. Il ne faut pas croire que la scène où, dans Richard en Palestine, Saladin guérit le roi d'Angleterre soit une fiction. Alperson possède une bourse de soie qu'il trempe dans l'eau pour la colorer légèrement, et certaines fièvres cèdent à cette eau bue par le malade. La vertu des plantes, selon cet homme, est infinie, et les guérisons des plus affreuses maladies sont possibles. Cependant, lui, comme ses confrères, s'arrête quelquefois devant des incompréhensibilités. Alperson aime l'invention de l'homéopathie, plus à cause de sa thérapeutique que pour son mystère médical. Il correspondait alors avec Edenus de Dresde, Chelius d'Heidelberg et les célèbres médecins allemands, tout en tenant la main fermée, quoique pleine de découvertes. Il ne voulait pas faire d'élèves. Le cadre était d'ailleurs en harmonie avec ce portrait échappé d'une toile de Rembrandt. Le cabinet, tendu d'un papier qui simulait du velours vert, était mesquinement meublé d'un divan vert. Le tapis vert mélangé montrait la corde. Un grand fauteuil en cuir noir, pour les consultants, se trouvait devant la fenêtre, drapé de rideaux verts. Un fauteuil de bureau de forme romaine, en acajou et couvert d'un maroquin vert, était le siège du docteur. Entre la cheminée et la table longue sur laquelle il écrivait, une caisse commune en fer, placée en face de la cheminée, au milieu de la paroi opposée, supportait une pendule en granit de Vienne, sur laquelle s'élevait un groupe en bronze, représentant l'amour jouant avec la mort, le présent d'un grand sculpteur allemand qu'Alperson avait sans doute guéri. Le chambranle de la cheminée avait une coupe entre 2 flambeaux pour tout ornement. De chaque côté du divan, 2 encoignures en ébène servaient à mettre des plateaux où Godefroy vit des cuvettes d'argent, des carafes et des serviettes. Cette simplicité, qui tenait presque de la nudité, frappa beaucoup Godefroy, pour qui tout voir fut l'affaire d'un coup d'œil, et il recouvra son sang-froid. « Monsieur, je me porte parfaitement bien, aussi ne viens-je pas pour moi, mais pour une femme à qui vous auriez dû depuis longtemps faire une visite. Il s'agit d'une dame qui demeure sur le boulevard du Montparnasse. » Ah oui, cette dame m'a déjà plusieurs fois envoyé son fils. Eh bien, monsieur, qu'elle vienne à ma consultation. Qu'elle vienne, répéta Godefroy indigné. Mais, monsieur, elle n'est pas transportable de son lit sur un fauteuil. Il faut la soulever avec des sangles. Vous n'êtes pas médecin, monsieur, demanda le docteur juif, avec une singulière grimace qui rendit son masque encore plus méchant qu'il ne l'était. « Si le baron de Nucingen vous faisait dire qu'il souffre et veut vous visiter, répondriez-vous qu'il vienne ?»« J'irai, » répliqua froidement le juif en lançant un jet de salive dans un crachoir hollandais en acajou plein de sable. « Vous iriez, » reprit doucement Godefroy. parce que le baron de Nucingen a 2 millions de rentes, et le reste ne fait rien à l'affaire. J'irai. Eh bien, monsieur, vous viendrez voir la malade du boulevard Montparnasse par la même raison. Sans avoir la fortune du baron de Nucingen, je suis ici pour vous dire que vous mettrez vous-même le prix à la guérison, ou à vos soins si vous échouez. Je suis prêt à vous payer d'avance. Mais comment, monsieur, vous qui êtes un émigré polonais, un communiste, je crois, ne feriez-vous pas un sacrifice à la Pologne? Car cette dame est la petite-fille du général Tarlowski, l'ami du prince Poniatowski. Monsieur, vous êtes venu pour me demander de guérir cette dame, et non pour me donner des conseils. En Pologne, je suis polonais. À Paris, je suis parisien. Chacun fait le bien à sa manière, et croyez que l'avidité qu'on me prête a sa raison. Le trésor que j'amasse a sa destination. Elle est sainte. Je vends la santé. Les riches peuvent la payer, je la leur fais acheter. Les pauvres ont leur médecin. Si je n'avais pas un but, je n'exercerais pas la médecine. Je vis sobrement et je passe mon temps à courir. Je suis paresseux et j'étais joueur. Concluez, jeune homme. Vous n'avez pas l'âge où l'on peut juger les vieillards. Godefroy garda le silence. Vous demeurez avec la petite fille de cet imbécile qui n'avait de courage que pour se battre et qui a livré son pays à Catherine II? Oui, monsieur. Soyez chez vous lundi à 3 heures, dit-il en quittant sa pipe et en prenant son agenda sur lequel il traça quelques mots. Vous me remettrez à mon arrivée 200 francs, et si je vous promets la guérison, vous me donnerez 1000 écus. Il m'a été dit, reprit-il, que cette dame est rapetissée comme si elle était tombée au feu. Monsieur, c'est, croyez-en les plus célèbres médecins de Paris, une névrose dont les désordres sont tels qu'ils les ont niés tant qu'ils ne les ont pas vus. Ah, je me rappelle maintenant les détails que ce petit bonhomme m'en a donnés. À demain, monsieur. Godefroy sortit, après avoir salué cet homme aussi singulier qu'extraordinaire. Rien en lui ne sentait, n'indiquait un médecin, pas même ce cabinet nu, et dont le seul meuble qui frappa la vue était cette formidable caisse de hurée ou de fichets. Godefroy put arriver assez à temps au passage Vivienne pour acheter, avant que la boutique ne fermât, un magnifique accordéon qu'il fit partir devant lui pour M. Bernard, en indiquant l'adresse. Puis il alla rue Chanoines, en passant par le quai des Augustins, où il espérait trouver encore ouvert un des magasins des commissionnaires en librairie. Il en fit effectivement un, où il eut une longue conversation avec un jeune commis sur les livres de jurisprudence. Il trouva Madame de la Chanterie et ses amis au retour de la grand-messe, et au premier regard qu'elle lui jeta, Godefroy répondit par un hochement de tête significatif. « Eh bien, lui dit-il, notre cher père Alain n'est pas avec vous ?»« Il ne viendra pas ce dimanche-ci, répondit Madame de la Chanterie. « Vous ne le verrez que d'aujourd'hui en 8, à moins que vous n'alliez où il vous a donné rendez-vous. » « Madame, dit tout bas Godefroy, vous savez qu'il ne m'intimide pas comme ces messieurs, et je comptais lui faire ma confession. Et moi? Oh, vous, je vous dirai tout, car j'ai bien des choses à raconter. Pour mon début, j'ai trouvé la plus extraordinaire de toutes les infortunes, un sauvage accouplement de la misère et du luxe. Puis, des figures d'une sublimité qui dépassent toutes les inventions de nos romanciers les plus en vogue. La nature, et surtout la nature morale, est toujours au-dessus de l'art, autant que Dieu est au-dessus de ses créatures. Mais voyons, dit Madame de la Chanterie, venez me raconter votre expédition dans les terres inconnues où vous avez fait votre premier voyage. Monsieur Nicolas et Monsieur Joseph, car l'abbé de Vaise était resté pour quelques moments à Notre-Dame, laissèrent Madame de la Chanterie seule avec Godefroy, qui, sous le coup des émotions qu'il venait de ressentir la veille, raconta tout dans les plus petits détails, avec la force, avec l'action et la verve que donne la première impression d'un pareil spectacle et de son cadre d'hommes et de choses. Il eut un grand succès, car la douce et calme Madame de la Chanterie pleura, quelque accoutumée qu'elle fût à descendre dans l'abîme des douleurs. « Vous avez bien fait, dit-elle, d'envoyer l'accordéon. » « Je voudrais faire bien plus, répondit Godefroy, puisque cette famille est la première qui m'ait fait connaître les plaisirs de la charité. Je désire procurer à ce sublime vieillard la plus grande partie des bénéfices de son grand ouvrage. Je ne sais si vous avez assez de confiance dans ma capacité pour me mettre à même d'entreprendre une pareille affaire. D'après les renseignements que je viens de prendre, il faudrait environ 9 000 francs pour fabriquer ce livre à 1 500 exemplaires, et leur moindre valeur serait alors de 24 000 francs. Comme nous devons préalablement payer les 3 000 et quelques 100 francs qui grèvent le manuscrit, c'est donc 12 000 francs à risquer. Oh, madame, si vous saviez quel regret amer j'ai eu, en venant du quai des Augustins ici, d'avoir dissipé si follement ma petite fortune. Car l'esprit de la charité m'est comme apparu. J'ai l'ardeur de l'initier. Je veux embrasser la vie de ces messieurs, et je serai digne de vous. J'ai béni plusieurs fois depuis 2 jours le hasard qui m'a conduit ici. Je vous obéirai en tout jusqu'à ce que vous me trouviez capable d'être un des vôtres. « Eh bien, répondit gravement Madame de la Chanterie après avoir réfléchi, écoutez-moi, car j'ai des choses importantes à vous révéler. Vous avez été séduit, mon enfant, par la poésie du malheur. Oui, souvent le malheur a de la poésie, car pour moi, la poésie est un certain excès dans le sentiment, et la douleur est un sentiment. On vit tant par la douleur. Oui, madame, j'ai été pris du démon de la curiosité. Que voulez-vous? Je n'ai pas encore l'habitude de pénétrer au cœur des existences malheureuses, et je n'y vais pas avec la tranquillité de vos 3 pieux soldats du Seigneur. Mais sachez-le bien, c'est après l'épuisement de cette irritation que je me suis voué à votre œuvre. Écoutez, mon cher ange, dit Madame de la Chanterie, qui prononça ces 3 mots avec une douce sainteté dont fut singulièrement touché Godefroy. Nous nous sommes interdits, mais absolument, nous ne forçons point les mots ici. Ce qui est interdit n'occupe pas même notre pensée. Donc, nous nous sommes interdits d'entrer dans les spéculations. Imprimer un livre pour le vendre, en attendre des bénéfices, c'est une affaire, et les opérations de ce genre nous jetteraient dans les embarras du commerce. Certes, ceci me semble assez faisable, nécessaire même. Croyez-vous que ce soit le premier cas qui se présente ? Nous avons 20 fois, 100 fois aperçu le moyen de sauver ainsi des familles, des maisons. Or, que serions-nous devenus avec des affaires de ce genre? Nous aurions été négociants. Commanditer le malheur, ce n'est pas travailler soi-même. C'est mettre le malheur à même de travailler. Dans 2 jours, vous rencontrerez des misères plus âpres que celles-ci. Ferez-vous la même chose? Vous seriez accablé. Songez, mon enfant, que messieurs Mongenod ne peuvent plus, depuis 1 an, se charger de notre comptabilité. Vous aurez la moitié de votre temps pris par la tenue de nos livres. Nous avons aujourd'hui près de 2 000 débiteurs dans Paris. Et au moins faut-il que, pour ceux qui peuvent nous rendre, nous sachions le chiffre de leurs dettes. Nous ne demandons jamais, nous attendons. Nous calculons que la moitié de l'argent donné se perd. l'autre moitié nous revient, quelquefois doublée. Ainsi, supposez que ce magistrat meure. Voilà 12 000 francs bien aventurés. Mais que sa fille soit guérie, que son petit-fils réussisse et qu'il devienne un jour magistrat, eh bien, s'il a de l'honneur, il se souviendra de la dette et il nous rendra l'argent des pauvres avec usure. Savez-vous que plus d'une famille, tirée de la misère et mise par nous sur le chemin de la fortune par des prêts sans intérêt, a fait la part des pauvres et nous a rendu les sommes doublées et quelquefois triplées? Voilà nos seules spéculations. D'abord, songez quant à ce qui vous préoccupe, et vous devez vous en préoccuper. Que la vente de l'ouvrage de ce magistrat dépend de la bonté de cette œuvre. L'avez-vous lu? Puis, si le livre est excellent, combien d'excellents livres sont restés 1, 2 ou 3 ans sans avoir le succès qu'ils méritent? Combien de couronnes mises sur des tombeaux? Et je sais que les libraires ont des façons de traiter, de réaliser, qui font de leur commerce le plus chanceux et le plus difficile à débrouiller de tous les commerces parisiens. Monsieur Nicolas vous parlera de ces difficultés, inhérentes à la nature des livres. Ainsi, vous le voyez, nous sommes raisonnables. Nous avons l'expérience de toutes les misères, comme celle de tous les commerces, car nous étudions Paris depuis longtemps. Les Mongenod nous aident. Nous avons en eux des flambeaux, et c'est par eux que nous savons que la Banque de France a le commerce de la librairie en suspicion constante, quoique ce soit un des plus beaux commerces, mais il est mal fait. Quant aux 4 000 francs nécessaires pour sauver cette noble famille des horreurs de l'indigence, car il faut que ce pauvre enfant et son grand-père se nourrissent et puissent s'habiller convenablement, je vais vous les donner. Il est des souffrances, des misères, des plaies que nous pensons immédiatement, sans hésitation, sans chercher à savoir qui nous secourons. Religion, honneur, caractère, tout est indifférent. Mais dès qu'il s'agit de prêter l'argent des pauvres pour aider le malheur sous la forme agissante de l'industrie, du commerce, oh, alors, nous cherchons des garanties avec la rigidité des usuriers. Aussi, pour le surplus, bornez votre enthousiasme à trouver à ce vieillard le plus honnête libraire possible. Ceci regarde Monsieur Nicolas. Il connaît des avocats, des professeurs, auteurs de livres sur la jurisprudence. Et dimanche prochain, il aura bien certainement un bon conseil à vous donner. Soyez tranquille, si c'est possible. Cette difficulté sera résolue. Cependant, peut-être serait-il bon que M. Nicolas lût l'ouvrage de ce magistrat. Si cela se peut, obtenez-en la communication. Godefroy restait stupéfait du bon sens de cette femme, qu'il croyait uniquement animée par l'esprit de charité. L'initié plia le genou, baisa l'une des belles mains de Madame de la Chanterie en lui disant: vous êtes donc aussi la raison. Il faut être tout dans notre état, reprit-elle avec la gaieté douce particulière aux vraies saintes. Comment 2 000 comptes? S'écria-t-il. Mais c'est immense. Oh, 2 000 comptes et qui peuvent donner lieu, répondit-elle, à des restitutions basées, comme je viens de vous le dire, sur la délicatesse de nos obligés. Car nous avons bien 3 000 autres familles qui ne nous rendront jamais que des actions de grâce. Aussi, sentons-nous, je vous le répète, la nécessité d'avoir des livres. Et si vous avez une discrétion à toute épreuve, vous serez notre oracle financier. Nous sommes obligés de tenir un journal, le grand livre des comptes courants et un livre de caisse. Nous avons bien des notes, mais nous perdons trop de temps à chercher. « Voilà ces messieurs, » reprit-elle. Godefroy, grave et pensif, prit peu de part d'abord à la conversation. Il était abasourdi par la révélation que madame de la Chanterie venait de lui faire, d'un ton qui prouvait qu'elle voulait le récompenser de son ardeur. 2 000 familles obligées, se disait-il. Mais si elles coûtent autant que va nous coûter monsieur Bernard, nous avons donc des millions semés dans Paris. Ce sentiment fut un des derniers mouvements de l'esprit du monde qui s'éteignait insensiblement chez Godefroy. En réfléchissant, il comprit que les fortunes réunies de madame de la Chanterie, de messieurs Alain, Nicolas, Joseph et celles du juge Popineau, les dons recueillis par l'abbé de Vèze et les secours prêtés par la maison Mongenod, avaient dû produire un capital considérable, et que, depuis 12 ou 15 ans, ce capital, accru par ceux d'entre les obligés qui se montraient reconnaissants, avait dû grossir à la façon des boules de neige, puisque ces charitables personnes n'en distrayaient rien. Il voyait clair peu à peu dans cette œuvre immense, et son désir d'y coopérer s'en accrut. Il voulut, sur les 9 heures, retourner à pied au boulevard du Montparnasse. Mais madame de la Chanterie, craignant la solitude du quartier, le contraignit à prendre un cabriolet. En descendant de voiture, quoique les volets fussent si soigneusement fermés qu'il ne passait pas une ligne de lueur, Godefroy entendit les sons de l'instrument. Et, quand il fut sur le palier, Auguste, qui sans doute guettait l'arrivée de Godefroy, entr'ouvrit la porte de l'appartement et dit « Maman voudrait bien vous voir, et mon grand-père vous offre une tasse de thé. » En entrant, Godefroy trouva la malade transfigurée par le plaisir de faire de la musique. Le visage étincelait et les yeux brillaient comme deux diamants. « J'aurais dû vous attendre pour vous donner les premiers accords, mais je me suis jeté sur ce petit orgue comme un affamé se jette sur un festin. Vous avez une âme à me comprendre, et alors je suis pardonné. » Evanda fit un signe à son fils, qui vint se placer de manière à presser la pédale par laquelle respira le soufflet intérieur de l'instrument. Et, les yeux au ciel, comme sainte Cécile, la malade, dont les doigts avaient retrouvé momentanément de la force et de l'agilité, répéta des variations sur la prière de Moïse que son fils était allé lui acheter et qu'elle avait composée dans quelques heures. Godefroy reconnut un talent identique avec celui de Chopin. C'était une âme qui se manifestait par des sons divins où dominait une douceur mélancolique. Monsieur Bernard avait salué Godefroy par un regard où se peignait un sentiment inexprimé depuis longtemps. Si les larmes n'eussent pas été à jamais taries chez ce vieillard desséché par tant de douleurs cuisantes, ce regard aurait été mouillé. Cela se devinait. Monsieur Bernard jouait avec sa tabatière en contemplant sa fille dans une indicible extase. « Demain, madame, » reprit Godefroy lorsque la musique eut cessé. « Demain, votre sort sera fixé, car je vous apporte une bonne nouvelle. Le célèbre Alperson viendra demain à 3 heures. »«
Et il m'a promis, » ajouta-t-il à l'oreille de monsieur Bernard, « de me dire la vérité. »
Le vieillard se leva, prit Godefroy par la main, l'entraîna dans un coin de la chambre du côté de la cheminée. Il tremblait. Ah, oh, quelle nuit vais-je passer? C'est un arrêt définitif, lui dit-il à l'oreille. Ma fille sera guérie ou condamnée.
Prenez courage, répondit Godefroy, et après le thé, venez chez moi.
Cesse, cesse, ma fille, dit le vieillard. Tu te donneras des crises. À ce développement de force succédera l'abattement. Il fit enlever l'instrument par Auguste et présenta la tasse de thé destinée à sa fille avec toute la câlinerie d'une nourrice qui veut prévenir l'impatience d'un petit enfant. « Comment est-il, ce médecin ? » demanda-t-elle, déjà distraite par la perspective de voir un être nouveau. Wanda, comme tous les prisonniers, était dévorée de curiosité. Quand les autres phénomènes physiques de sa maladie cessaient, il semblait se reporter dans le moral, et alors elle concevait des caprices étranges, des fantaisies violentes. Elle voulait voir Rossini. Elle pleurait de ce que son père, qu'elle croyait tout-puissant, refusait de le lui amener. Godefroy fit alors une description minutieuse du médecin juif et de son cabinet, car elle ignorait les démarches de son père. M. Bernard avait recommandé le silence à son petit-fils sur ses visites chez Alperson, tant il avait craint d'exciter chez sa fille des espérances qui ne se seraient pas réalisées. Wanda restait comme attachée aux paroles qui sortaient de la bouche de Godefroy. Elle était charmée, et elle tomba dans une espèce de folie, tant son désir de voir cet étrange Polonais devint ardent. La Pologne a souvent fourni de ces êtres singuliers et mystérieux, dit l'ancien magistrat. Aujourd'hui, par exemple, outre ce médecin, nous avons Oene Wronski, le mathématicien illuminé, le poète Mickiewicz, Tovianski, l'inspiré, Chopin, au talent surnaturel. Les grandes commotions nationales produisent toujours des espèces de géants tronqués. Oh, cher papa, quel homme vous êtes! Si vous mettiez par écrit tout ce que nous vous entendons dire, seulement pour m'amuser, vous feriez une fortune. Car figurez-vous, monsieur, que mon bon vieux papa invente pour moi des histoires admirables lorsque je n'ai plus de romans à lire, et il m'endort ainsi. Sa voix me berce, et il calme souvent mes douleurs par son esprit. Qui jamais le récompensera? Auguste, mon enfant, tu devrais baiser pour moi les marques des pas de ton grand-père. » Le jeune homme leva sur sa mère ses beaux yeux humides, et ce regard, où débordait une compassion longtemps comprimée, fut tout un poème. Godefroy se leva, prit la main d'Auguste et la lui serra. « Dieu, madame, a mis deux anges près de vous !» s'écria-t-il. « Oui, je le sais. Aussi me reprochais-je souvent de les faire enrager. Viens, cher Augustin, embrasse ta mère. C'est un enfant, monsieur, dont seraient fières toutes les mères. C'est pur comme l'or, c'est franc, c'est une âme sans péché. Mais une âme un peu trop passionnée, comme celle de la maman. Dieu m'a peut-être cloué dans un lit pour me préserver des sottises que commettent les femmes qui ont trop de cœur, ajouta-t-elle en souriant. Godefroy répondit par un sourire et par un salut. Adieu, monsieur, et surtout remerciez votre ami, car il a fait le bonheur d'une pauvre infirme. Monsieur, dit Godefroy quand il fut chez lui seul avec monsieur Bernard qui l'avait suivi, je crois pouvoir vous assurer que vous ne serez point dépouillé par ce trio de braves gens. J'aurai la somme nécessaire, mais il faudra me confier votre traité relatif au réméré. Pour faire plus pour vous, vous devriez me confier votre ouvrage à lire. Non, pas à moi, je n'aurai pas assez de connaissances pour en juger, mais à un ancien magistrat d'une intégrité parfaite, qui se chargera, d'après le mérite de l'œuvre, de trouver une honorable maison avec laquelle vous contracterez équitablement. Je n'insiste pas là-dessus. En attendant, voici 500 francs, ajouta-t-il en tendant un billet de banque à l'ancien magistrat stupéfait, pour subvenir à vos besoins les plus pressants. Je ne vous en demande point de reçu. Vous ne serez obligé que par votre conscience, et votre conscience ne doit parler qu'au cas où vous retrouveriez quelque aisance. Je me charge de satisfaire Alperson. Qui donc êtes-vous? Dit le vieillard qui tomba sur une chaise. Moi, répondit Godefroy. Rien. Mais je sers des personnes puissantes à qui votre détresse est maintenant connue et qui s'intéressent à vous. Ne m'en demandez pas davantage. Quel est donc le mobile de ces gens? Dit le vieillard. La religion, monsieur, répliqua Godefroy. Serait-ce possible? La religion? Oui, la religion catholique, apostolique et romaine.
Et vous appartenez à l'ordre de Jésus ?
Non, monsieur, répondit Godefroy, soyez sans inquiétude. Ces personnes n'ont aucun dessein sur vous, hors celui de vous secourir et de rendre votre famille au bonheur.
La philanthropie deviendrait-elle donc autre chose qu'une vanité ?
Eh, monsieur, ne déshonorez pas, dit vivement Godefroy, la sainte charité catholique, la vertu définie par saint Paul.
Monsieur Bernard, en entendant cette réponse, se mit à marcher à grands pas dans la chambre.
« J'accepte, dit-il tout à coup, et je n'ai qu'une façon de vous remercier, c'est de vous confier mon ouvrage. Les notes, les citations sont inutiles à un ancien magistrat, et j'ai pour 2 mois de travaux encore à copier mes citations, comme je vous l'ai dit. À demain, ajouta-t-il en donnant une poignée de main à Godefroy.
Aurais-je fait une conversion ?
Se dit Godefroy, qui fut frappé de l'expression nouvelle que la physionomie de ce grand vieillard avait prise à sa dernière réponse.